Bienvenue à cette conférence sur les fictions historiques et leurs mécanismes narratifs. Alors, on a le plaisir d'accueillir déjà, donc par ordre hein, de place et complètement à l'inverse de ce que nous imposerait une galanterie déplacée, Jean-Clément Martin, qui est professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a été directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Donc, qui est historien de la Révolution, de la contre-révolution et de la guerre de Vendée, et qui s'est intéressé à toutes les dimensions de ces domaines, de l'érudition la plus stricte jusqu'à la fiction la plus débridée, puisqu'il a notamment été un des conseillers sur le jeu vidéo Assassin's Creed, donc celui qui se déroulait pendant la Révolution. Et il a donc notamment publié récemment « Au cœur de la Révolution française, les leçons d'histoire d'un jeu vidéo » avec Laurent Turcot chez Vendémiaire, « La machine à fantasmes, relire l'histoire de la Révolution française » chez le même éditeur, « La nouvelle histoire de la Révolution française » et « Robespierre, la fabrique d'un monstre » chez Perrin. Jo Walton donc est une autrice d'origine galloise qui vit à Montréal, au Québec. Elle s'est fait connaître en France avec le très beau roman Morwenna, paru chez De Noël, qui est un mélange subtil de récits réalistes sur la jeunesse d'une fan d'imaginaire et de folklore celtique, dont la magie a perduré dans sa famille. Jo Walton a fait cette année paraître un autre très beau roman, vraiment poignant, qui s'appelle Mes vrais enfants, où on suit deux biographies parallèles de la même femme devenue âgée. Et tout ça nous vaut de redécouvrir la trilogie dont on va davantage parler lors de cette table ronde, une trilogie qui s'appelle « Le subtil changement » et qui a été commencée avec « Le cercle de Farthing » qui vient d'être réédité par J'ai lu, suivi de « Hamlet au paradis » et « Une demi-couronne ». Et donc ce subtil changement, hein, c'est un léger décalage des possibles. C'est une uchronie, on se situe au début des années 40 à Londres. On suit les enquêtes de l'inspecteur Carmichael, mais la guerre est déjà terminée, puisqu'elle n'a pas eu lieu telle qu'on la connaît. Les Anglais n'ont pas résisté, ils n'ont pas arrêté l'avancée d'Hitler en Europe. Et donc voilà, Hitler a gagné et le fascisme s'installe doucement en Angleterre. Jean-Laurent Del Socorro a publié un premier roman qui s'appelait Les Royaumes de Vent et de Colère, hein, aux éditions ActuSF, hein, qui a reçu en 2015 le prix Elbakine, et donc qui est un roman de fantaisie historique, hein, pour le coup purement, qui prend pour cadre Marseille pendant les guerres de religion. Et son nouveau roman Boudicca est là, je cite, la biographie onirique d'une reine celte, qui est une figure historique de la résistance anglaise en l'an 1 contre l'Empire romain. Et il travaille actuellement sur un roman choral fantastique prenant pour cadre la guerre de sécession américaine. On en a un premier extrait à la fin de Boudicca. Donc voilà, il explore différentes périodes historiques, ce qui est le cas aussi de Charlotte Bousquet, donc, qui est une autrice aux multiples facettes, qui a publié des nouvelles dans de nombreuses revues et anthologies, des articles universitaires, participé à la création de plusieurs jeux de rôle, et dont la palette d'écriture, hein, se déploie vraiment largement du scénario de BD à la littérature pour la jeunesse, la littérature adulte, bien sûr la fantasy pour laquelle on la connaît surtout ici. Et dans sa bibliographie, il y a 4 romans historiques, donc un certain nombre des thrillers historiques qui sont Princesse des Eaux, ouais, moi je les décrirais comme ça. Ouais. Princesse des Eaux, Noire Lagune, Venenum, et Là où tombent les anges, qui est juste une roman historique, biographie d'une, voilà, d'un parcours d'une femme sur fond de guerre. Le tout chez Gulfstream, le dernier chez Électrogène. Donc, cette table ronde les réunit autour d'une vaste question. Comment écrire l'histoire quand on est romancier ou bien quand on est historien? Comment comprendre les usages éventuellement déformants qui peuvent être faits de l'histoire, hein, la manière donc, dont s'écrit l'histoire? Pour cerner un peu les enjeux, la question a été resserrée autour des mécanismes narratifs, hein, donc vraiment d'une comment ça s'écrit, avec donc je vais vous proposer plusieurs pistes tirées de vos ouvrages. La première qui me semble s'imposer, notamment pour Charlotte et pour Jean-Laurent, c'est le jeu sur les points de vue. Le choix de qui va raconter, de qui va voir la période historique, qui me semble décisive pour la manière dont vous construisez vos histoires. Je passe la parole à Charlotte.
Le point de vue. Comment je... Alors, moi, je le choisis au départ quand j'écris mon pitch, que je propose à l'éditeur. Donc, c'est vraiment très... c'est vraiment, non pas là, un mécanisme narratif, mais un mécanisme éditorial. Ce qui va changer, c'est la manière, effectivement, dont le roman va se dérouler. Par exemple, pour Là où tombent les anges, qui est un roman historique, j'ai choisi d'adopter un point de vue multiple qui permet d'explorer différentes facettes de la guerre du point de vue des femmes. Bon, il y a aussi deux hommes qui ont un peu la parole. Il y a donc Pierre, qui est un instituteur qui se retrouve enrôlé donc dans la guerre, et puis Robert, le mari de Solange. Donc là, c'est vraiment... C'était aussi une manière de leur donner une voix, et sinon, c'est faire passer le temps, c'est donner, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand on est ouvrière ou quand on est, quand on fréquente des salons ou par des cartes postales aussi. Donc, un des personnages retourne dans les champs puisque en gros, elle était bonne donc chez Robert et Solange, et puis avec la guerre, elle part remplacer son mari. Et c'était vraiment, c'était essayer d'avoir le point de vue le plus large possible. Mais je pense que ce qui est très, très, très essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui serve l'histoire. Enfin, pas la grande histoire, mais aussi l'histoire qu'on raconte dans une fiction. Je dirais que c'est même peut-être une des constitutives les plus importantes. C'est d'abord, on raconte une histoire. Et du coup, c'est vrai qu'on a des formes qui s'adaptent en fait à ce qu'on raconte dans Princesse des Eaux. J'ai écrit il y a quelques années, je m'en souviens plus, mais il me semble qu'il y a 2-3 points de vue. Mais en gros, le point de vue principal, c'est quand même l'héroïne, et c'est elle qu'on suit. Et c'est parce que c'est aussi une forme donc de thriller, effectivement, comme tu le dis, voilà.
Le choix du point de vue, c'est particulièrement prégnant, je pense, sur un récit qui s'inspire de l'histoire. Par exemple, dans Royaume, le fait qu'il y ait plusieurs personnages, c'est pas le fait d'avoir quatre histoires à raconter, mais c'est la façon de raconter l'histoire à travers justement des points de vue historiques pertinents. Si un personnage religieux, c'est pas pour rien dans Royaume de Vent et de Colère. Si y a un personnage de femme politique, c'est pas pour rien non plus. Ainsi de suite sur le chevalier, ainsi de suite. J'allais dire que les choix qu'on va faire de focus sur l'histoire, la grande histoire dans notre roman, va nous imposer certains types de personnages et certains types de points de vue. Donc c'est essentiel sur l'écriture. À l'inverse, dans Boudica, où il n'y a qu'une personne qu'on suit, là c'est un peu différent, c'est vraiment qu'on veut décrire non pas, enfin, une période historique, certes, mais c'est surtout l'évolution à travers ce personnage sur un long temps d'une époque historique. Donc le choix du personnage, il est déterminant pour créer les personnages. Plus que dans d'autres types d'écriture.
Le choix des personnages est déterminant pour créer les personnages.
Pardon, le choix des... Je me reprends. Comment faire le choix des points de vue, pardon, est déterminant pour décider quel type de personnage on va mettre en scène, en fait. Si on veut avoir, par exemple, dans Royaume de Vent et de Colère, un panel à peu près global de tout ce qui se passe, à la fois... dans le clergé, à la fois en termes de politique, à la fois dans la rue, eh bien, il va falloir définir tous ces types de personnages dans le récit.
Je vais juste ajouter quelque chose aussi sur le côté point de vue. Le dernier roman que j'ai écrit, donc, qui n'est pas encore sorti, se passe à la fin du 19e siècle. et aux États-Unis et en fait parle de l'histoire dans l'histoire, enfin de la légende dans l'histoire. Et donc dans ces points de vue-là, donc il y a une narratrice principale qui est métisse amérindienne, mais on suit également les aventures des Steelmen, qui sont des héros de romans de gare, mais qui sont des légendes de l'Ouest. Et en fait, c'était vraiment aussi la manière dont finalement l'histoire devient fiction et dont la légende finit par importer plus que la réalité et comment on la raconte et qu'est-ce qui importe le plus finalement, quoi.
Oui, donc effectivement, le point de vue, c'est extrêmement important. Et en fonction de l'époque que vous avez choisie et donc de l'histoire qui doit y prendre place, les choix vont être extrêmement différents, voilà, avec selon ce que vous avez raconté. Joe Walton, il y a moins un jeu sur une multiplication de points de vue, du moins dans la trilogie du subtil changement, où on suit l'inspecteur Carmichael et son adjoint et en alternance un personnage principal, une femme qui est directement impactée, le mot est pas très beau, par l'enquête en cours et les événements.
Mm-hmm. Yeah, so there is a third person point of view section with Carmichael, the police inspector, and then in each book there is a different first person female narration. And so the chapters alternate between those. And certainly when I was writing the first one, I started off with Lucy's voice, and she's very English, and she seems like she's very silly, and she's kind of I'm really straining translation here. She's really ditzy. She's the kind of person that you would just think is a fool, but in fact, it turns out over the course of the novel that she's actually wiser than a lot of the other people underneath her very fluffy exterior. And I did her voice like that very deliberately. To get the effect that I wanted to get. And that's partly the historical period effect and partly the political effect that I was going for with the book.
Alors en fait, effectivement, pour chacun des romans, on suit l'inspecteur Carmichael et l'histoire est racontée pour ces passages-là à la troisième personne. Mais pour chaque roman, il y a également une partie du roman qui est à la première personne et c'est toujours la voix d'une femme. Donc effectivement, pour le premier roman, c'est Lucy, une femme qui est très, très anglaise, un petit peu bête, enfin elle a l'air un peu bête comme ça, un peu simplette, on va dire, pour dire ça gentiment. Mais au final, on se rend compte au fur et à mesure du roman que finalement, elle est plus sage que la plupart des autres personnages qui, eux, paraissaient beaucoup moins bêtes qu'elle. Et j'ai fait exprès de choisir cette voie pour avoir l'effet voulu, que ce soit par rapport à la période historique, mais surtout d'un point de vue politique. C'était vraiment un effet que je recherchais.
And then, in the other two books, I kept the same structure where I had the female point of view because that's how I was doing these, and I chose then very different characters. In the middle book, an actress, and in the third book, a much younger debutante who is about to go to college. She's that age. She's just going to go to Oxford in the autumn, and it's the spring, and she's doing a debutante season of being presented to the Queen. And I used those voices that are completely immersed in the world that they live in, so that I could get away with, in the beginning, the first chapter of the third book, there's a line where the debutante girl says, "We're all fascists now. Isn't fascism fun?" And that's a shocking line. When I read that chapter, people would gasp at seeing that done. But that was the actual attitude in the 1930s, the Nuremberg rallies. People went because they were fun to go, not because they were evil people. And that was an interesting thing to try to get across through the narration, through the narrative voice.
Alors effectivement, pour les deux livres suivants, j'ai gardé la même structure. J'ai pris d'autres personnages principaux féminins, très différents d'ailleurs. Dans le deuxième roman, on suit une actrice. Dans le troisième, on suit une jeune fille qui s'apprête à aller à l'université à Oxford. C'est le printemps, c'est une débutante, elle doit être présentée à la reine. Et je voulais vraiment des voix comme ça qui étaient complètement immergées dans cette époque. Parce que par exemple, dans le premier chapitre du troisième livre, la débutante dit « Mais de toute façon, aujourd'hui, on est tous fascistes. Et c'est sympa d'être fasciste. » Bien évidemment, quand les gens lisent ça, bah, ça les choque. Mais justement, c'était le but du jeu. C'était pour montrer complètement le monde complètement différent qui était que je voulais créer.
Oui, ce sont dans les trois cas des jeunes femmes privilégiées et des jeunes femmes qui défendent un point de vue qui est celui d'une jeune femme privilégiée, à savoir on n'est pas concerné par ces histoires. Et effectivement, ça rend de manière subtile et forte la manière dont les gens s'habituent complètement à ce contexte politique qui est différent de celui que nous connaissons. Et c'est très glaçant. Du coup, c'est à la fois très guilleret parce que c'est de l'enquête policière classique, mais avec ce côté très très effrayant des gens qui vivent dedans et qui ne voient pas venir les problèmes.
Yeah, and that's why the very privileged women is because of the detective story format, that when you've got those kind of cozy mysteries like Agatha Christie, like Dorothy Sayers, they're all very privileged people, people with servants, people who are presented to the Queen. You read those stories, and they're actually about murder, they're detective stories, but they're very comfortable stories. So I realized I could use that same format, those same ways of writing about bloody death, to actually write about fascism. It was a way of sneaking up on writing about something that we always write about at a remove that we don't get close to. And I could get close to it in that way by using the uchronie so that the readers don't know what's going to happen. Because I changed the end, it's a different history. So the reader doesn't know. And by using the form of the detective story and with everybody being comfortable with what is going on that, as you say, is chilling.
Alors effectivement, il s'agit toujours de femmes privilégiées. Et en fait, ça rappelle les romans d'Agatha Christie, entre autres. Ben en fait, oui, c'est des histoires de meurtre, il y a du sang et tout, mais c'est toujours des gens privilégiés. Au final, les histoires se passent plutôt bien, à part le meurtre. Et justement, moi, je voulais faire la même chose, mais plutôt que de mettre des meurtres sanglants, faire ça avec le fascisme. Donc, eux, pour eux, c'est normal. L'histoire est confortable également. Et en général, quand on parle du fascisme, on s'en approche pas trop, on étudie ça de loin. Et justement, avec cette uchronie, je voulais vraiment m'en approcher, étudier le problème. Et comme c'est une uchronie, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment ça va se terminer, puisque j'ai changé la fin, puisque ce n'est pas l'histoire comme on la connaît. Mais justement, je me suis servi aussi de l'aspect détective, enfin de l'enquête, voilà, pour montrer que pour eux le fascisme c'est normal, c'est la norme en tout cas, et franchement ça fait peur effectivement.
And in My Real Children, it's two alternate histories of the second half of the 20th century. It's between 1950 and now. And the world is diverging, so there are two alternate histories. But for that book, I wrote it in third person, very very much in intimate third, in the style that women's fiction is usually written in, rather than the style that we tend to have for genre. Because I thought, people do crossovers, why shouldn't I do a crossover with work of people like Doris Lessing and Marge Piercy and sort of feminist 20th century writers? Mm-hmm. And so I very deliberately used a very different style for that book, because it's an intimate uchronie.
Alors, Dans mon dernier roman, Mes vrais enfants, qui se passe au XXe siècle, il y a deux mondes parallèles, deux histoires parallèles. Ça se passe entre 1950 et de nos jours. Et il y a deux histoires, deux histoires parallèles. C'est pas du tout le même monde dans lesquels...
Les deux sont des lignes historiques divergentes, en fait, voilà. Par rapport à notre monde.
Voilà. Et donc, j'ai quand même voulu écrire ce roman à la troisième personne, mais de façon plus intime, comme le sont parfois les fictions écrites par des femmes, notamment des féministes du XXe siècle. Je me suis dit, il y en a bien d'autres qui font des crossovers entre différents genres, bah, je vais le faire également. Et du coup, ça donne une uchronie un peu intime.
Jean-Clément Martin, qu'est-ce que vous pensez de cette manière d'approcher l'histoire, donc par l'intime, par la subjectivité, par des points de vue très rapprochés à chaque fois, qui sont des techniques pour nous rapprocher de l'histoire, pour raconter une histoire qui nous devienne proche?
Je pense qu'effectivement, si j'avais su tout ça plus tôt, je n'aurais pas fait des livres d'histoire. J'aurais mieux fait de faire des romans historiques, parce que vous avez une liberté tous les trois, que vous affichez, que les historiens universitaires n'ont pas et ne peuvent pas avoir au XXe siècle, alors qu'ils l'avaient au XIXe. Ce qui me frappe beaucoup en vous entendant, c'est que tous les gens qui faisaient des romans historiques au XIXe siècle, mais tous les gens qui faisaient de l'histoire au XIXe siècle, je pense à Michelet, je pense à Lamartine, qu'on appelle des historiens, avaient un point de vue personnel qu'ils exprimaient absolument librement, et il y avait l'osmose entre l'historien et puis son récit, et puis tout le monde savait où on classait les gens. Bon, au XXe siècle, c'est plus possible, et en même temps, dès qu'on fait un livre, le lecteur cherche à savoir exactement qui on aime, qui on n'aime pas, pourquoi on a pris ce point de vue ou pas. Alors bon, moi j'ai fait un livre sur Robespierre, je vais vous dire, j'aime pas Robespierre, hein, mais en même temps je suis pas contre Robespierre, c'est pas ça la question. Ce qui m'intéressait, c'était de présenter la multiplicité des points de vue autour de Robespierre et de ne pas en donner un. Et ça c'est quelque chose qui me semble alors en même temps un frein, parce que vous avez la possibilité effectivement de toucher vos lecteurs en faisant jouer l'émotion, en donnant quelque chose, enfin en faisant passer des sentiments. Et normalement, quand on fait un livre d'histoire scientifique, on devrait tuer toutes les émotions. Et moi, je suis bien persuadé d'une chose, c'est que en faisant cela, on vous laisse la possibilité d'intervenir dans des trous que nous n'explorons pas, si j'ose dire. On est dans des silences. Il y a des choses dans lesquelles on n'osera pas rentrer. Moi, je ne sais pas ce que pensait Robespierre. Je ne sais pas comment il est mort. Je ne sais pas s'il aimait quelqu'un. Et vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Alors, profitez-en.
Alors, je vais vraiment rebondir là-dessus, parce que précisément, c'est ce que vous faites. Charlotte, tu as... inventer comme ça, enfin développer la mort de Descartes, enfin à partir d'un indice sur un empoisonnement, c'est dans Venenum. Je poserai ensuite la question à Jean-Laurent.
Oui, alors en fait, ce qui est très très difficile pour nous, c'est d'arrêter de lire des essais historiques et de rentrer dans la fiction. On a vraiment à un moment donné. Mais en plus, moi, j'ai un parcours universitaire, c'est de dire, bon, écoute, Charlotte, t'es mignonne, mais là, t'écris une histoire. Donc, tu sors de la documentation. Mais pour Descartes, en fait, c'est mon philosophe préféré du monde de Je l'aime d'amour, et voilà. Donc, toutes les œuvres de Descartes, et dans toutes les éditions possibles, et tout. Et un jour, on m'envoie un article en me disant, bah, Charlotte, il y a un Allemand qui, a priori, a trouvé que Descartes a été empoisonné. C'est un article qui était un essai de philosophie historique paru en 2008, qui montre effectivement que Descartes aurait été empoisonné par, alors comme j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, en tout cas un religieux assez proche de la reine de Christine de Suède, et donc effectivement avec lettres à l'appui et puis une vraie étude et tout ça, et le directeur de Paris 4 Sorbonne, donc qui est c'est le spécialiste de Descartes, dit non mais ça c'est un petit truc, ça vaut pas la peine, ça va... Donc immédiatement je me suis précipitée dessus. Et effectivement, donc je suis partie de ce point de vue-là. À partir de ce point de vue-là, qui est un essai scientifique, moi j'ai inventé une histoire, et voilà. Mais ça permet effectivement de donner des éclairages, de combler des trous. de donner aussi une... Enfin, pour moi, ce qui était hyper important, c'était aussi de donner à Descartes une... Enfin, de rendre à Descartes une vraie dimension humaine. Parce que ce qu'on étudie beaucoup, beaucoup en philo, c'est de dire que Descartes est cartésien, ce qu'il n'était pas. C'est de dire que, voilà, il y a... Gna, 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 gna. On passe complètement à côté des lettres à Elisabeth. On passe complètement à côté du fait que la biographie de Descartes était tronquée parce qu'il y a des choses qui ne se disaient pas. Un homme, un vrai, ne pleure pas. Donc on ne pleure pas quand sa fille naturelle meurt, on ne pleure pas à la mort de son père. Or, ce n'est pas le cas. Quand on regarde la correspondance de Descartes, il écrit à quelqu'un qui a perdu un de ses proches en disant, bah, en gros, c'est le deuil, c'est normal, quoi. C'est normal d'être mal. Et c'était vraiment ça que j'ai voulu rendre à travers, après, une fiction qui m'a permis de parler du genre, de faire du cap et d'épée, de m'éclater. Un personnage écrit la première personne et tout. Bon, ça, c'était pour le fun, mais voilà. C'était vraiment un mélange.
Les ombres de l'histoire, les non-dits aussi, c'est explicitement, selon la fin de Royaume de Vent et de Colère, ce qui vous intéresse également pour l'exploration de vos romans de fantaisie historique, Jean-Laurent Del Socorro.
Oui, alors paradoxalement, c'est peut-être encore plus prégnant sur Boudicca.
Oui, tout à fait.
Je vais rebondir à la fois sur ce que vous disiez sur la partie... quand est-ce qu'on arrête de faire des recherches et qu'on bascule sur le roman. Boudicca, j'ai travaillé, donc, qui est un personnage historique, elle est citée dans les textes latins, on a des sources, donc au bout d'un moment...
Elle s'appelle Boadicée, moi je savais, j'avais pas fait le lien entre Boadicée et Boudicca.
En fait, Boudicca, entre guillemets, est le nom donné par les Romains dans leur histoire, et Boadicée, c'est le nom sous lequel elle est réapparue au niveau de la Renaissance, sur une héroïne un peu idéalisée, un peu... Voilà. Donc on se plonge dans un texte, on a des sources, donc il y a des faits qui sont avérés, et comme vous dites, il y a plein de trous. Dans Boudicca, toute sa jeunesse, on ne sait pas qui c'est. Alors il y a des hypothèses, et du coup on gratte, mais à un moment on bascule, c'est-à-dire on arrête d'être l'historien, parce qu'on va raconter une histoire, on va raconter un roman, et là effectivement on a cette liberté, c'est de se dire... De toutes ces hypothèses, ce qu'elle a pu être, c'est laquelle que je vais choisir et je vais avoir tout à fait le droit de l'investir. Boudicca, elle est pour moi une fille de haute naissance qui a la royauté. En vrai, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a même des théories comme quoi elle aurait pu être prisonnière de guerre, épousée de force. Tout est envisageable. Mais à un moment, il faut faire ce choix pour pouvoir raconter l'histoire et rejoindre la vraie histoire. Parce que du coup, la fin de son histoire... là était historiquement, on peut pas passer à côté. J'ai travaillé avec un archéologue, un historien d'époque, pour pas trop dire de bêtises justement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois une fois qu'on a investi l'histoire, le noyau, effectivement après on peut investir les trous et ses ombres. Et ça c'est fascinant. Et c'est vrai que du coup vous le soulevez dans votre intervention. Et j'avais jamais pensé, effectivement en termes d'auteur et de romancier, on a une chance parce que c'est vrai que on n'écrit pas un essai historique, on écrit bel et bien une histoire.
D'où le côté biographie onirique, c'est pour ça le...
Alors onirique, j'allais dire, parce que le seul aspect qui n'est pas fantaisie pour le coup, mais qui est un peu fantastique, c'est je réinvestis la dimension celte des croyances et du rêve. Et le seul aspect un peu fantastique, c'est à travers les rêves qu'elle va avoir, des rêves prémonitoires sur l'arrivée des Romains, des choix qu'elle va avoir à faire. C'est pour ça onirique, parce qu'elle-même va se rêver reine au fur et à mesure du roman.
Et Jean-Clément Martin, vous me disiez que alors dans le jeu vidéo sur lequel vous avez travaillé, il y avait la possibilité de résoudre une énigme de l'histoire.
Oui, mais ça me semble pas le plus essentiel. J'ai été conseiller scientifique pour Assassin's Creed, la partie consacrée à la Révolution, mais je n'étais pas scénariste. Donc je ne suis pas intervenu dans l'écriture du scénario. Je passais derrière pour donner les feux verts orange ou rouge. Et il y a quelque chose qui était une belle invention. L'invention des scénaristes a été de donner à l'héroïne principale du jeu la possibilité de tuer Robespierre. Si vous connaissez l'histoire un peu de Robespierre, personne ne sait comment Robespierre reçoit une balle dans la mâchoire. Est-ce que c'est lui qui se suicide ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui tire dessus? Ça fait 200 ans que tout le monde a des hypothèses absolument extrêmement impressionnantes. Parce que s'il se suicide, ça, éventuellement, c'est héroïque. Et si quelqu'un lui tire dessus, c'est précisément parce que il a été considéré comme un opposant. Donc c'est vraiment une question idéologiquement très lourde et historiquement non résolue. Et là, avec le jeu vidéo, on sait ce qui s'est passé. C'est Élise, l'héroïne qui tire sur Robespierre. Enfin, l'histoire apparaît au travers du jeu vidéo. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, alors, mais en même temps, moi, ce qui me semble, ce que je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui me semble vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'il faut avoir en tête tout le temps, et moi, ça m'embête tout le temps, c'est que quand on travaille sur des grands personnages comme ça, on se rend bien compte qu'il y en a des quantités astronomiques de personnages relativement secondaires, mais qui ont parfois joué des rôles absolument considérables, mais pour lesquels on ne saura jamais ce qui s'est passé. Et ça me semble vraiment extrêmement important à comprendre. Nous sommes tous, quand on fait de l'histoire, omnubilés par les grands hommes, ou les grandes femmes, il y en a moins, parce qu'il n'y a pas d'habitude et qu'il n'y a pas de source. Bon, et il faut vraiment creuser, décortiquer pour trouver des éléments. Et ce qui me semble intéressant dans ce que vous faites, et je le dis sérieusement, c'est que vous pouvez entreprendre là des explications par des personnages apparemment secondaires et qui sont essentiels. Et dans ce que vous avez fait sur Marseille au XVIe siècle, quand on voit à quel point il y a le personnage de la femme qui est la chef de guilde, de la guilde dont on ne saura évidemment rien, mais qui a tiré les ficelles, et je trouve que c'est astucieux et c'est important et que nous devrions tous fonctionner comme ça. Parce que dans la Révolution, est-ce que c'est Robespierre qui a dirigé? Moi, je ne pense pas. Je pense que ce sont des gens dont on ne connaît rien, ou qu'on connaît très peu de choses, même si je vous dis Barrère, vous savez grosso modo qui c'est, il n'y a pas de bonne biographie de Barrère. Bon. Donc, il y a bien là des vides de l'histoire et il me semble que là, vous nous incitez à faire attention. Et là, je suis très content.
Dans Mes vrais enfants, Joe Walton, ce qu'on voit des histoires alternatives n'apparaît vraiment qu'au second plan. C'est-à-dire que ça n'est pas décisif dans la double vie de cette femme. Et donc, on en a des échos lointains. Et c'est vraiment... Ça suffit. Et c'est vraiment au lecteur de faire en bonne partie le travail de reconstitution de mais que s'est-il passé, comment ça diverge quoi.
Yeah. When there's a big event that happens and you hear that a president has been assassinated, a tower has come down, whatever, you always want to say where you were. When that happened, there's the story of where were you when you heard about the Twin Towers coming down? Where were you when you heard about that? You are in that story. You're not in the center of the story, but you're in the story that we tell to each other. And history happens in the background of your life. You remember that the towers came down the day that your mother was given a terminal diagnosis, or that you'd just fallen in love at the time when Princess Diana died. It's those things that your life and history are involved. And that's what I wanted to do with my real children. I wanted to have a character who was an ordinary person, a person like us, not a upper-class person who could change the world, but a person who could change the world in small ways by doing small things in the same way that we can in real life. And I wanted to show history going on in the background. And that's why I started the book when I did in her childhood, before her life splits, so that you can see the way that the Second World War affects her. Her brother is killed, her father is killed, she's evacuated and goes away. But she's not changing the course of the Second World War. The Second World War is changing the course of her life. And then you see in the two worlds, Suez in both worlds. And in one world, when Ceres is happening, she's falling in love, and in the other world, she's just had a baby. And that's exactly the way that it historical events are in our lives. And that's what I was doing with that.
Alors effectivement, quand un grand événement se produit, quand un président se fait tirer dessus ou quand des tours se cassent la figure, on se demande toujours où est-ce que vous étiez à ce moment-là. Et vraiment, enfin, tout le monde sait où il était le jour où les tours aux États-Unis se sont effondrées. Et quelque part, on n'est pas au centre de l'histoire, mais on fait partie de l'histoire, on est quand même dedans. Et moi, justement, je voulais que l'histoire soit comme ça, en arrière-plan, de la même façon que vous vous rappelez pertinemment que le jour où les tours jumelles se sont effondrées, votre mère, on lui a diagnostiqué un cancer ou une maladie qui allait l'achever, ou que vous êtes tombé amoureux le jour où Diana est morte. Et effectivement, tout est comme ça, un peu imbriqué. Et c'est vraiment ça que je voulais faire. Je voulais vous montrer une femme ordinaire qui, certes, ne peut pas changer le monde, mais qui peut, comme nous tous, changer un petit quelque chose quand même dans le monde. Et qu'elle est toujours l'histoire en arrière-plan. C'est pour ça que j'ai commencé l'histoire quand elle était jeune, avant que sa vie ne se sépare en deux. On voit comment elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Son frère est tué à la guerre. Son père meurt également. Elle est évacuée. Et là, c'est la Seconde Guerre mondiale qui la change, elle, et non pas l'inverse. Elle n'a aucune influence, elle, sur la Seconde Guerre mondiale. Mais par contre, voilà, voir comment un personnage peut, à un moment donné de l'histoire, tomber amoureuse ou, dans l'autre histoire, avoir un bébé, voilà, voir comment ces événements s'incluent dans notre vie à nous.
Au moment du canal de Suez, j'ai vu que tu...
Suez. If I can say to what you guys were saying, I also find it very hard to stop researching. And I also think that there is this wonderful way where you can... History asks a lot of questions where we don't know the answers, we can't know the answers, like your example with the bullet. And we cannot know the answers. And when you write fiction, it gives you the opportunity to give answers. Like you said, the hypothesis, you can choose which hypothesis. And you can choose your answer, and you can answer the questions that history itself is forced to leave open. And that is a lovely thing to do and to play with. And I feel you shouldn't contradict the known facts, but there are so many spaces in there when you're using actual history, that so many questions to answer. It's really nice to have answers to them.
Alors effectivement, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je trouve ça également très difficile d'arrêter de faire de la recherche et de se mettre à écrire un roman. Et ce qu'il y a de super, justement, quand on écrit des romans historiques, c'est que l'histoire nous laisse plein de questions dont on ne connaît pas les réponses. Par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure avec la balle dans la mâchoire de Robespierre. On ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé, mais quand on écrit de la fiction, on peut imaginer des réponses à ces questions. On peut choisir une hypothèse quand il y en a plusieurs qui existent déjà et trouver des réponses à une histoire qui, elle, nous laisse sans réponse. Et on peut jouer avec ça. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas contredire des faits connus de tous. Mais par contre, tous ces petits trous qu'on peut remplir, ça, vraiment, c'est très sympa à faire.
Je passe la parole.
Oui, non, parce que j'ai une question. Moi, j'aimerais bien vous poser une question. Parce qu'après tout, pourquoi est-ce que vous écrivez des romans historiques ? Pourquoi est-ce que vous mettez cette contrainte-là ? Parce que vous pourriez faire, comme plein de gens, des fictions absolument tranquillement. Bon, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez derrière Dumas, derrière Hugo, qui faisait des fictions historiques, parce que c'est la même chose, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, vous ? Moi, je sais pourquoi je fais ça, parce que je ne peux pas faire autre chose.
Mais et s'imposer ce travail de documentation préalable ?
Parce que c'est pas s'imposer, c'est génial. En fait, moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, en plus, il y a mon côté universitaire qui est je vais faire des recherches, donc voilà. Donc, généralement, avant de commencer un roman de fiction, il y a beaucoup de documentation, il y a de l'imprégnation dans l'époque, mais aussi, c'est plonger dans un autre univers. c'est vraiment, on n'est pas au XVIIe siècle. Enfin, pour Vénénum, je ne sais pas. Puis il y a des choses que j'ai pas envie de savoir non plus. Bah, l'hygiène au XVIIe siècle, je préfère que mon héroïne soit propre. Donc voilà. Mais il y a plein d'autres choses qui sont super intéressantes, qui permettent vraiment, on a un autre univers, on a une autre vision du monde. Il y a un jeu sur l'écriture aussi qui est très très important, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas une fiction contemporaine comme un roman historique. Et puis il y a effectivement le jeu ou les jeux avec l'histoire. Et c'est marrant que vous parliez de Dumas en fait, mais donc le roman qui se passe à la fin du 19e siècle à la base que j'ai écrit, c'est parce que j'ai lu très tardivement les Trois Mousquetaires et que j'avais envie de parler de Milady. Et voilà, donc en fait il y a vraiment un jeu de l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, et l'histoire permet tout ça. Et en plus je trouve qu'il y a on peut aussi parler de choses extrêmement modernes avec un roman historique. Je continue à parler de mes trucs, mais dans Là où tombent les anges, en fait, il y a toute une partie qui est donc dans la réalité, dans la Première Guerre mondiale, il y a énormément de manipulation médiatique. C'est-à-dire que les journaux, de toute façon, voilà, propagande et mensonge, de toute façon. Ils avaient quand même ordre de ne rien dire. Donc, en 1914, ça commence, les Français se prennent une branlée monumentale. Mais c'est pas grave, alors on bat pas en retraite, on stagne, et puis après c'est vraiment du mensonge éhonté, du style les prisonniers, enfin les Allemands, ils sont tellement malheureux que pour les faire prisonniers, on leur donne des tartines de confiture. Donc ça, c'est des trucs qu'on trouve dans les banques de données Gallica, c'était les journaux d'époque. Et quand on fait le parallèle avec notre propre réalité, hein, ce qui s'est passé pendant les guerres du Golfe avec CNN, ce qui se passe encore actuellement, et la manière dont les médias et les politiques déforment la réalité. C'est passé aussi avec les présidentielles, enfin bref, on a quand même, je trouve qu'on peut mettre vraiment les choses en parallèle, ça peut permettre aussi d'avoir énormément de réflexions sur ce qui a été gagné ou perdu ou qui on est en train de reperdre, et je dirais les progrès et non-progrès de l'histoire.
Voilà. Jean-Laurent, donc l'histoire comme ouverture d'autres mondes et comme lien à l'actualité.
Alors, déjà, j'écris l'histoire parce que je suis un feignant, parce que l'histoire, elle est donnée, j'ai pas à écrire scénario, j'ai pas à créer d'univers. Non, effectivement, sans rire, il y a deux éléments qui sont intéressants. Moi, je rebondis sur le mot de cadre et de contrainte. C'est vrai, on s'impose quand même une contrainte qui est assez forte. Mais comme on va pouvoir y jouer dedans avec ces règles historiques, il y a quelque chose d'intellectuellement intéressant. Et là où je te rejoins mais complètement, il n'y a rien de plus fascinant que d'utiliser un personnage ou une période historique que pour parler de notre propre société. Au Royaume de Vent et de Colère, ça aborde la religion, la liberté de culte, la sexualité, si ce n'est pas des problèmes aujourd'hui qu'on aborde. Remettre en avant, c'est le fait premier pour Boudicca, remettre en avant un personnage historique qui est une femme, qui a une influence politique, militaire d'importance, qui est connue en Angleterre, qui n'est pas connue chez nous, c'est une prise de position aussi importante aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est l'élément qui fait, je pense, un des éléments premiers qui fait qu'on écrive de l'histoire, enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment de vouloir avoir un écho avec notre propre histoire actuelle.
So some of both of those things, I also really enjoy doing research. It's fun. And also, when you're writing something historical, you have something to lean on. You've got the reality that you are changing, or you've got the reality that you are fictionalizing and making fantastic. It's there. You don't have to make up the whole world. You can look up the hygiene, you can look up the clothes, you can look up attitudes and go from there. You don't have to start from absolutely nothing. And I like that. And the question that I have is how do you write the true history? Because I can hardly read history without wanting to change it. You know, I can hardly read about the revolution without wanting to save Camille Desmoulins. Kill Robespierre a bit earlier. I just want to get in there and mess with it and make it come out the way that I want it to come out. Or I want to make up a secret reason why it happened the way that it did happen, because there's some secret force making it come out that way. And real history keeps going. It doesn't stop. And it's often very tragic because everybody dies at the end. I was reading a biography of Voltaire and Emily du Châtelet, and guess what? They're dead. They were dead when I started the book. When I finished the book, I was in tears because they were dead, you know. And history is tragic. Everybody dies. And in a story, you can stop at the moment when people are happy for a minute, sometimes.
Alors, moi, c'est un peu des deux. J'aime beaucoup faire de la recherche. Je trouve ça vraiment super sympa. Et il y a aussi l'aspect, effectivement, quand on se base sur l'histoire, on a déjà une base. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. On a déjà une réalité qu'on va changer, certes. Et on peut inventer plein de choses à partir de là. Mais on peut se renseigner sur l'hygiène, sur les vêtements qu'ils portaient, sur les attitudes. On part de là et après, on invente. Mais au moins, on ne part pas de zéro. Mais moi, ma question, c'est comment vous faites pour écrire de l'histoire de la vraie ? Parce que moi, quand je fais des recherches, j'ai qu'une envie, c'est de tout changer. Quand je lis ça, j'ai envie de changer la Révolution, j'ai envie d'inventer des raisons secrètes pour des choses qui se sont produites. Pour moi, l'histoire, ça ne s'arrête jamais et c'est tragique, tout le monde meurt à la fin. Donc moi, j'ai lu une biographie de Voltaire et d'Émilie de Châtelet. Je savais qu'ils étaient morts avant de commencer. Et quand j'ai fini le bouquin, j'étais en pleurs parce qu'ils étaient morts. Enfin, c'est quand même... Voilà, donc l'histoire, c'est tragique. Tout le monde meurt à la fin. Au moins, quand on écrit un roman, on a une chance d'arrêter le roman à un moment où les gens sont heureux ou pas.
Oui, effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça. Mais moi, en même temps, en vous entendant tous, les trois, là, au moins, nous avons quand même la même... je dirais préoccupation, parce que écrire de l'histoire pour moi, c'est répondre à la fameuse question d'un philosophe italien, Croce, il n'y a d'histoire que contemporaine. Ce qui veut dire que ce que nous travaillons sur le passé est en fonction de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc vos préoccupations, c'est ça aussi. On ne répond au travers de nos recherches universitaires, même si on se cache. Hein. On dit c'est pas moi, j'interviens pas, etc. Je fais de l'histoire sérieuse, scientifique et tout ce qui s'ensuit. Mais en définitive, on cherche aussi, et on le sait quand même, tous à répondre aux questions qui nous préoccupent. Il est certain que quand j'ai commencé à être étudiant, personne, pour le dire simplement, ne s'occupait de l'histoire, entre guillemets, des femmes. Bon, ça fait 30 ans maintenant qu'on s'en occupe, et c'est encore mal accepté par un certain nombre de mes collègues. Bon, donc, on veut bien que les choses changent. Alors maintenant, sur ce que vous dites, hein, sur l'histoire, alors, il y a deux choses. Il y a une chose, tout le monde meurt, je suis d'accord. Bon, mais on le sait bien. Et puis, il faut bien admettre, nous aussi. Bon, donc on va être concerné. Mais en même temps, personne ne sait ni comment, ni quand, ni sous quelle forme. Et même quand on travaille en histoire, on se rend bien compte que les choses sont toujours plus compliquées qu'on croit. Bon, et que c'est... Moi, il me semble que c'est... Je fais l'histoire comme du cluendo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de comprendre qu'à un moment donné, qu'effectivement, Desmoulins et Robespierre sont amis, Robespierre va laisser tomber Desmoulins. Et il y a une raison. Il y a une vraie raison. J'arriverai sans doute pas à la trouver, mais il y a une vraie raison autour de laquelle vers laquelle il faut tendre et approcher. Donc, de ce point de vue-là, vous avez plus de liberté, moi j'ai plus de contraintes, mais il y a une chose quand même que je dirais à sens inverse. Moi, mes preuves, je les mets sur la table. Vous, vous les cachez tous.
Et donc, je vais ressaisir cette question-là autour de la question du jeu, du coup, sur le suspense. Bon, donc tout le monde meurt à la fin. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit intéressant de raconter une histoire dont tout le monde connaît déjà la fin? Notamment Jean-Laurent Del Socorro, vous écrivez des histoires de vaincus, vous écrivez du côté des vaincus. Non, mais voilà. Et donc, on avance comme ça vers la tragédie. Et voilà, c'est d'où vient ce choix?
Bah, le y a presque la réponse dans la question. Dans une tragédie, on sait que ça finit mal. Ça n'empêche pas d'assister à la pièce. C'est le même principe. C'est moins la fin qui est importante. C'est de effectivement, comment on va y arriver. Ça rejoint, en fait, ça. Et ça, c'est le premier point. Donc, quel est le fil qui va être déroulé pour y arriver? Et le deuxième point, si on arrive à peu près à réussir, c'est... c'est pas qu'une histoire qu'on raconte, c'est des personnages qu'on espère faire partager au lecteur qui vont nous accompagner sur cette histoire. Et là, effectivement, il va y avoir les personnages principaux qui sont les personnages historiques. Et comme vous dites, on va avoir la liberté de faire apparaître toute une série de personnages, parfois secondaires, mais qui vont permettre de nourrir le récit et d'expliquer ses parts d'ombre. Donc c'est avant tout un travail autour des personnages. Et ensuite, voilà, faire glisser dans leur histoire, petit à petit, l'inéluctable tragédie qui arrive au bout.
Charlotte, vous allez plutôt écrire pour un jeune public, un public bon, adolescent, et sur des périodes qui ne sont pas forcément bien connues. Du coup, la question est peut-être l'inverse. C'est-à-dire, il y a la question, comment fait-on pour que ce soit intéressant quand on connaît déjà la fin, mais il y a aussi, comment fait-on pour réussir quand on écrit à propos de quelque chose que personne ne connaît, comment est-ce que la documentation réussit à passer et à remplir un rôle en partie pédagogique pour ton public, pour votre public?
Oui, alors, en fait, on est... On arrive à être... En fait, j'ai envie de parler de Noire Lagune, qui est mon premier roman historique, donc un polar. En fait, je suis partie d'un thème donc, qui était, et d'une personnalité qui est Véronica Franco, qui est une courtisane, qui est une des plus grandes courtisanes de Venise, qui est totalement pas traduite, en fait, qui n'est toujours pas traduite en français. Elle a écrit des poèmes magnifiques. J'ai été les chercher, parce que je ne suis pas encore bilingue italienne, donc j'ai été les chercher dans une traduction de Gender Studies à Chicago. Et voilà, et ensuite documentation sur la Renaissance. Bon, ça c'est
ça, puis, se passe à Venise. Voilà, le
et Venise. En même temps, Venise, c'est hyper biaisé parce que Venise est forcément une ville qui est tellement à multiples facettes et qui est tellement une ville miroir qu'on peut y mettre aussi ce qu'on veut. Moi, mon truc, c'est vraiment les personnages. Il y a très peu de grandes figures historiques. Donc, il y a Véronica Franco, il y a Domenico Venier qui vient faire coucou et voilà. Mais et même dans mes autres romans, ce qui m'intéresse, c'est les gens du quotidien. Donc en fait c'est plus par ce biais-là et par le fait que pas tant les périodes, parce qu'en plus j'ai tendance à sortir de plus en plus de mes zones de confort. C'est-à-dire que la guerre de 14 c'était pas mon truc à la base et je me suis plongée dans vraiment dans la guerre de 14. Là mon prochain historique, il faut que je me documente sur le Portugal du XXe siècle, enfin la dictature de Salazar, j'y connais rien et c'est vraiment une grosse aventure. Mais en fait, c'est des thématiques que je veux aborder et là, ça va être vraiment, c'est des choses qui nous touchent parce que ça parle de dictature, ça va parler de racisme, d'immigration et peut-être que, on serait pas dans une situation aussi merdique en ce début du XXIe siècle, j'aurais fait totalement autre chose. Donc c'est vraiment par le biais des thématiques et des personnages. Que je rends en tout cas les romans, enfin j'espère rendre les romans intéressants.
Et le dernier choix, celui de Joe Walton, c'est le choix de la réécriture de l'histoire. C'est le choix de l'Uchronie, hein, sur lequel on finira dans les quelques minutes qui nous restent, et qui permet lui aussi d'alerter, hein, sur notre de présent.
Yeah, and when you write alternate history, you get to change the end. So unlike with these things, the reader does not know the end. And unlike reading history, and I think people become very complacent reading history and historical novels where they will know what happens and they can feel superior to the characters because they feel that they know what happens. And when you're reading alternate history, you've taken that away. You don't know where it's going. You don't know how it's going to come out. And that is exactly how it is for all of us in our real lives. We don't know what's going to happen in the future. And it was exactly like that for Boudicca, for Robespierre. They did not know what we now know. And we're not any cleverer than they were. Everyone's in that situation. And I think that is an important thing to learn from history, that you can learn better from a Uchronie than from straight history, where you can keep on feeling superior because you know what happens.
Alors moi, l'avantage que j'ai avec l'histoire alternative, c'est que je peux changer la fin. Et du coup, les gens ne savent pas comment ça va se terminer et ça change leur rapport au personnage, parce que souvent, quand on sait comment ça va se terminer, on a tendance à se sentir supérieur par rapport au personnage. Mais là, on ne sait pas comment ça va se finir. C'est comme dans la vraie vie, finalement. Finalement, que ce soit Robespierre ou d'autres, ils ne savaient pas non plus comment ça allait se terminer. Et on n'est pas plus intelligent qu'eux. C'est juste que nous, maintenant, on le sait, mais eux, ils ne le savaient pas. Et je pense que c'est quelque chose d'important à apprendre de l'histoire et que l'on peut peut-être mieux montrer dans une uchronie, c'est que on n'est pas supérieur aux autres. On connaît l'histoire, donc forcément, on a l'impression d'être supérieur, mais en fait, on ne l'est pas. Si on était eux, on ne saurait pas non plus ce qui va se passer.
Le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin, peut-être. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, mais j'insisterai beaucoup là-dessus. Il me semble que si on fait, alors là, du point de vue de l'historien, si on fait vraiment de l'histoire scientifique sérieuse, il faut l'écrire en ne sachant pas ce qui va se passer. C'est-à-dire en ne donnant jamais, quand on écrit, le sentiment que c'est immuable. C'est ça le fond de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a trop de gens qui écrivent l'histoire en bouclant tout, parce qu'on nie, ils imaginent immédiatement que comme on va vers la fin, tout est lié, alors que c'est précisément le contraire. Pour dire les choses simplement, vous avez parlé de vos livres, moi j'ai parlé des miens aussi. Bon, le Robespierre que j'écris, ça part précisément de ça, en disant que il n'y avait rien qu'il prédestinait. Il n'est pas plus révolutionnaire que les autres, même moins que les autres. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps découvrir comment d'un seul coup, ce qui n'était pas prévu devient fixé. Et c'est ça qu'on devrait faire en faisant de l'histoire.
Merci beaucoup à tous. C'était très intéressant.